Et je te le dis, Patrick, c'est plus sûr pour un péquiste dans Bertrand que dans Mercier. Mercier, ouais. C'est plus volatile.
C'est plus volatile et c'est un château phare de la de Québec solidaire depuis quoi, de 2008?
Oui, 2008. Mais il s'en va, Amir s'en va, là.
Oui, je veux bien croire qu'Amir Kadir s'en va, mais c'est aussi, si tu transposes ça au municipal, c'est un château phare de Projet Montréal. On élit des gens à gauche de la gauche. Et bref, ça, c'est dans l'immédiat. Et après ça, à plus long terme, moi, je connais un peu Michel Blanc. Écoute, c'est une femme qui est une pionnière. Hein. Ça a été une des premières personnes à s'afficher comme étant femme transgenre, qui a médiatisé cette aventure-là, qui est très intime. Donc, elle a beaucoup fait pour cette communauté-là. Mais c'est aussi une personne qui comment je te dirais, tu lui poses une question, tu vas avoir des réponses, et c'est parfois des réponses qui décoiffent. Et ça, c'est parfait quand tu es une blogueuse, quand tu es une conférencière, une consultante, une personne qui prend la parole dans les médias. En politique, il faut que tu apprennes à doser tes interventions. Et je te dirais, je te soumettrais là bien gentiment que pour Michel, ça va être un énorme défi parce que elle faisait le parallèle avec la CAQ, Paul, où selon elle, là, ce qu'on dit, c'est ferme ta gueule puis suis. C'est vrai qu'au PQ, il y a plus de débats. Mais à un moment donné, il faut que tu fermes ta gueule puis tu chantes la chanson de la compagnie aussi, sinon tu deviens une distraction.
Oui.
Je pense qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage dans le cas de Michel Blanc pour ça. Mais bon, écoute, je ne peux que saluer ça parce que c'est aussi, si je ne me trompe pas, là, au chapitre provincial, c'est la première fois qu'une femme transgenre se présente.
Et parlant du chapitre provincial, on voyait les chefs qui étaient réunis tout à l'heure. Ben, en tout cas, c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui présentait Québec solidaire. Donc, les chefs qui font front commun pour la réforme du mode de scrutin.
Oui, c'est une idée qui revient souvent en politique québécoise. C'est un peu comme le Yeti. Hein? Tout le monde en parle, mais jamais personne ne l'a vu. Le Parti québécois parle de la réforme du scrutin depuis des décennies. Mais à chaque fois que le PQ était au pouvoir, ce projet de loi-là n'est jamais né, n'a jamais été adopté. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose, Paul, d'injuste dans le fait que quand tu habites une circonscription qui est très populeuse, comme sur l'île de Montréal, par exemple, c'est pas vrai qu'un vote, une personne égale un vote. Parce que quand tu compares avec les circonscriptions loin des grands centres qui sont moins populeuses, ben là-bas... par la mathématique, là, l'arithmétique des sièges, ton vote a beaucoup plus de poids. Et là, l'argument, c'est que dans un système proportionnel, c'est vrai que chaque vote compterait. Puis Paul, j'en ai parlé à ton micro, je fais des chroniques là-dessus dans la presse. Aujourd'hui, je t'avoue, là, je me demande si j'ai pas changé d'idée, parce que avec la montée de certains courants identitaires, que ce soit chez certains xénophobes, même des islamistes pourraient faire élire des députés en vertu d'un système semblable. Le système actuel, avec tous ses défauts, t'oblige à avoir une certaine masse critique avant de pouvoir faire élire des députés. T'sais, moi, je verrais un scénario où un groupe comme la Meute va faire élire quelques députés, pas assez pour faire un gouvernement. Mais avec un système à la proportionnelle, on peut penser que tu aurais des scénarios semblable. Moi, qui je te le dis, là, moi, je trouve que c'est important, la paix sociale. Je sais pas si on se rend service avec un système semblable.
Alors, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a publié son rapport aujourd'hui. Elle s'en prend notamment à Hydro-Québec. Elle dit aussi que Québec a sous-estimé, une petite erreur, de près de 10 milliards la dette publique. Et puis aussi, elle a fustigé encore les temps d'attente, les délais d'attente pour une chirurgie au Québec.
Et ça, je trouve ça ahurissant. Écoute, en 2010, j'ai fait une série pour la presse sur le cancer, comment le cancer se vit au Québec. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de la désorganisation, mais ce que j'avais constaté aussi, c'est à quel point les délais d'attente avant des chirurgies causent beaucoup de tourments. Et là, ce que la vérificatrice générale souligne, Paul, c'est que on dépasse souvent la cible de 28 jours qui est fixée par le ministère. Et ce qu'elle dit, la VG, c'est qu'il faudrait gérer en fonction de l'urgence, c'est pas en fonction des catégories de chirurgie. Ça, c'est d'une part, mais je veux attirer ton attention sur une autre problématique qui est typiquement québécoise. Je t'en ai parlé à quelques reprises. Écoute, le temps, la façon dont on estime le temps d'attente, ça varie d'un hôpital à l'autre. Les données sont pas assez fiables pour qu'on puisse comparer les temps d'attente d'un hôpital à l'autre. Paul, on est en 2018. On est capable, là, du côté des géants de l'Internet, de prévoir des comportements. Et au Québec, on n'est pas capable d'avoir un système où on va pouvoir évaluer nos différents programmes, nos différents succès et insuccès dans le réseau public. Il y a un problème de données au Québec. Et je trouve ça ahurissant de penser qu'en 2018, d'une part, on va attendre très longtemps avant d'avoir des chirurgies pour le cancer. Puis d'autre part, que la VG constate qu'entre hôpitaux, on ne peut même pas comparer dans certains cas parce que les façons de comptabiliser le temps d'attente sont un peu bancales et un peu arriérées.
Merci, Patrick Lagacé. À demain, jeudi.